Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Conformément à l'article 5 de la loi numéro 60-53 du 9 novembre 1960, qui stipule et proclamé élu le candidat ayant obtenu sur son nom au premier tour ou au deuxième tour du scrutin les deux tiers des suffrages exprimés, l'Assemblée nationale, en vertu de cette loi, déclare solennellement élu président de la République du Niger, M. Diori Amani, qui réunit 53 voix.
Nous sommes en novembre 1960. Le Niger, comme la plupart des territoires anciennes colonies de la France, a proclamé quelques mois plus tôt, le 3 août exactement, son indépendance. En ce jour, réunis en assemblée, ses représentants choisissent et installent à la tête de la jeune nation leur président de la République. Un vote sans grande surprise qui consacre le parcours d'un homme dont le rôle est devenu central dans l'évolution du pays. Diori Amani. Qui est-il? Né le 6 juin 1916 à Soubouré, petit village à 12 km de Niamey, ce fils d'un fonctionnaire zerma de l'administration coloniale française va accéder à la prestigieuse école normale William Ponty de Dakar au Sénégal, pépinière des cadres et intellectuels politiques d'Afrique de l'Ouest, d'où il ressort avec un diplôme d'instituteur. Il appartient donc à cette première génération des fonctionnaires africains formés sous la période coloniale. De 1936 à 1938, il enseigne au Niger avant de devenir professeur de langue à l'École nationale de la France d'outre-mer à Paris. Il y enseigne le Haoussa et le Zerma, les deux principales langues de son pays. Mais lorsqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les populations de la France d'outre-mer sont appelées à participer pleinement à la vie politique, Diori Amani n'hésite pas à s'engager. En 1946, devenu directeur d'école à Niamey, il fonde avec quelques fonctionnaires de toutes les disciplines le Parti progressiste nigérien, le PPN. Il en est le patron. Il sera également à Bamako en octobre 1946, aux côtés d'autres grandes figures politiques africaines, lors de la création du RDA, le Rassemblement démocratique africain, dont Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire sera le président. Le Parti progressiste nigérien deviendra la section locale du RDA. Novembre 1946, Diori Amani fait son entrée à l'Assemblée nationale française comme député du Niger. Mais il n'y restera que jusqu'en juin 1951, date à laquelle il est battu par son cousin Djibo Bakary. Il retourne alors à son métier initial et redevient directeur d'école à Niamey. Mais ceci n'est qu'un repli tactique pour mieux revenir, puisque 5 ans plus tard, en 1956, l'instituteur affable, apprécié dans tout le pays, autant pour son militantisme que pour ses qualités humaines, est réélu pour un nouveau mandat au Palais Bourbon, l'Assemblée nationale française. C'est le début d'une longue carrière politique, puisque la même année, il devient conseiller municipal de la ville de Niamey, puis conseiller à l'Assemblée territoriale en 1957. Après être entré en conflit avec son cousin Djibo Bakary, jugé plus radical, qui a été exclu du Rassemblement démocratique africain, il accède la même année, 1957, au prestigieux poste de vice-président de l'Assemblée nationale française. Lorsqu'en 1958, le général de Gaulle, visiblement bousculé par les velléités autonomistes qui grondent dans les territoires coloniaux, se lance dans une campagne pour le statut de la communauté française, Diori Amani fait partie des fidèles qui soutiennent très activement l'idée auprès de ses compatriotes. Il milite pour le oui au référendum que propose le président français. Il adhère entièrement à l'idée de communauté, à ce statut juridique qui transfère une partie des compétences aux différents territoires avec un lien étroit gardé avec la métropole. Avec la puissante réserve de l'administration coloniale, d'une coalition de chefs traditionnels et de parachutistes français bénéficiant du soutien actif de Paris, il n'éprouve aucune difficulté à l'emporter très largement sur son adversaire, chef de file des partisans du non, Djibo Bakary. Les Nigériens votent en faveur du oui et intègrent donc la grande communauté française. Amani Diori, fort de ce succès, va plaider la cause de son pays auprès des autorités à Paris. La proximité du Nigeria l'inquiète et il souhaite faire du Niger le contrepoids français dans cette région ouest-africaine.
L'appel que je lance à tous les membres de la communauté, à la France métropolitaine particulièrement, c'est de nous aider à développer l'économie de notre territoire, à faire un contrepoids puissant à la zone sterling. Car le développement économique du Niger sera bénéfique non seulement pour le territoire, mais pour l'ensemble de la communauté. Ainsi, à côté du RDA, tous les partisans du oui, la chefferie, le groupe de l'Union franco-nigérienne, les forces démocratiques nigériennes et des isolés ont décidé de constituer cette liste d'entente.
Juste après la victoire du oui au référendum sur la communauté française, des élections sont organisées au Niger. Une rude campagne s'engage pour le renouvellement de son assemblée territoriale. Djibo Bakary, le vice-président du conseil du gouvernement, qui fait campagne, se sent menacé par l'impressionnante machine coloniale.
Comme on pouvait s'y attendre, la campagne électorale s'ouvre au Niger dans des conditions essentiellement antidémocratiques. Depuis l'ouverture de la campagne, les fonctionnaires Sawaba sont systématiquement mutés de leur poste et des mutations de faveur sont prononcées pour permettre aux fonctionnaires de la coalition anti-Sawaba de mieux influencer le scrutin du 14 décembre, que les chefs de canton battent la campagne avec la bénédiction de certains administrateurs, matraquant et cravachant les mandataires de notre parti, que toutes les forces réactionnaires du territoire sont en branle pour fausser le résultat des élections, que le dispositif répressif mis en place pour le référendum se renforce de jour en jour par l'envoi massif des gendarmes et des gardes territoriaux au Niger, on ne peut pas prendre au sérieux la soi-disant neutralité administrative. Nous sommes convaincus que l'immense majorité du peuple nigérien fait confiance à notre parti et qu'il n'est pas possible de diriger ce pays en dehors du parti Sawaba.
Djibo Bakary va néanmoins être battu et Amani Diori lui succède le 18 décembre 1958. Djibo Bakary, dont le parti Sawaba avait fait campagne pour l'indépendance immédiate, va demander asile aux régimes les plus radicaux, les plus portés sur l'indépendance tout de suite. La Guinée de Sékou Touré, le Ghana de Kwame Nkrumah et la Tanzanie de Julius Nyerere. Amani Diori devient alors le principal interlocuteur de la France dans la marche vers l'indépendance.
Je dois dire que depuis le 6 septembre, j'ai beaucoup apprécié la position du général de Gaulle en ce qui concerne l'autodétermination et le passage du discours touchant la communauté et marquant d'une façon définitive la fin du régime colonial. J'ai beaucoup apprécié ce discours et le général de Gaulle, l'homme de Brazzaville, est resté égal à lui-même après avoir été aussi l'homme de la Constitution de 1958. Il se révèle encore cette fois-ci le personnage le plus compréhensible, le plus compétent pour la période qu'il définit comme étant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Effectivement, l'histoire s'accélère en cette fin de la décennie 50. Amani Diori, comme tous les leaders de cette période, va brûler les étapes. Co-fondateur de la RDA, le Rassemblement démocratique africain avec le président Félix Houphouët-Boigny, il fait partie de ceux qui vont faire le tour des sections locales du mouvement pour expliquer pourquoi ils ont choisi de rompre avec le Parti communiste français. Dans cette mosaïque des races qu'est alors le Parlement français, il côtoie l'Algérien Ferah Abbas, un autre nationaliste marqué par les pays des Lumières. La République du Niger est proclamée le 18 décembre 1958.
Les chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente, les présidents Maurice Yaméogo, Haute Volta, Hubert Maga, Dahomey, Amani Diori, Niger, Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, viennent d'être reçus par le général de Gaulle, président de la communauté, auquel ils ont demandé officiellement que soient transférés à leurs pays respectifs toutes les compétences instituées par l'article 78 de la Constitution du 4 octobre 1958. Ils ont précisé les conditions dans lesquelles ils souhaitent que leur soient transférées toutes les compétences. Ainsi qu'ils l'ont affirmé au général de Gaulle, ils tiennent à souligner auprès du peuple de France que leur geste n'est dicté ni par la rancœur ni par le dépit. Ils sont sûrs que le peuple de France comprendra ce geste, car nul ne peut douter de leurs sentiments, non seulement d'amitié, mais encore d'affection à l'égard de la France. Enfin, ils tiennent à marquer leur reconnaissance à l'égard du général de Gaulle, dont le retour au pouvoir permet à leur pays de conduire leur propre destinée.
Nous sommes au mois de juin 1960, lorsque de façon collective, quelques dirigeants francophones d'Afrique, notamment de la région Ouest, s'avancent en commun vers leur autodétermination définitive. Amani Diori fait partie de ceux-là qui ne veulent absolument pas de heurts avec Paris dans cette démarche. Le général de Gaulle va donc être au centre de la négociation pour le transfert des compétences et les modalités, puisque tous les présidents de la sous-région se succèdent à l'Élysée au cours du premier semestre 1960.
Mais j'arrive très confiant et très optimiste des résultats que nous avons obtenus dans les contacts que nous avons eus avec le général de Gaulle, président de la communauté et président de la République. Et je dois tout de suite vous annoncer que nous sommes attendus jeudi prochain pour une nouvelle rencontre avec le général de Gaulle et mes trois camarades et moi-même. Au cours de cette rencontre, nous connaîtrons la position définitive qui sera adoptée en ce qui concerne le transfert de compétences que nous avons demandé il y a déjà quelques jours.
Monsieur le Président, au lors de son passage, le Président Yemiogo nous a annoncé que la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta aurait lieu dans les tout premiers jours du mois d'août. Qu'en est-il pour le Niger ?
Mais c'est à peu près à la même période, quoi. C'est dans la première semaine d'août. C'est la période que nous avons arrêtée pour les quatre États.
C'est donc dans la concertation que le Niger accède à son tour, comme beaucoup d'autres nations de la communauté, à l'indépendance le 3 août 1960. C'est au Premier ministre Diori Amani qu'échoit l'honneur de la proclamer devant les Nigériens en liesse.
Ce mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Je déclare que le Niger exerce et exercera à compter de ce jour sa pleine et entière souveraineté dans le respect des principes du droit international et de la morale internationale.
L'indépendance obtenue, Diori Amani peut désormais s'engager tout seul sur plusieurs chantiers. Le premier est l'entrée de son pays au sein des Nations Unies.
La candidature du Niger à l'Assemblée générale des Nations Unies vient d'être recommandée à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Vous dirai-je la joie et la fierté de tous les Nigériens de voir leur pays entrer dans le concert des nations. Ainsi, en quelques années, s'est accomplie une pacifique révolution qui voit son couronnement dans le temple international de la paix. La politique que suivra le gouvernement sur la scène internationale reflétera l'âme nigérienne. Elle sera empreinte de modération, de respect, de compréhension, et ce sera le but capital du gouvernement du Niger de faire que la paix et l'amour règnent à jamais parmi les hommes.
La question internationale, la diplomatie mondiale, Diori Amani lui accorde une attention particulière. Quelques semaines après cette accession à l'ONU, C'est par une large majorité qu'il est élu président de la République au sein de l'Assemblée nationale.
Conformément à l'article 5 de la loi numéro 60-53 du 9 novembre 1960 qui stipule et proclamé élu le candidat ayant obtenu sur son nom au premier tour ou au deuxième tour du scrutin les deux tiers des suffrages exprimés, l'Assemblée nationale, en vertu de cette loi, déclare solennellement élu président de la République du Niger, M. Diori Amani, qui réunit 53 voix.
International, en novembre 1960, Diori Amani, le nouveau président, décide aussitôt de se rendre en compagnie de son homologue et ami camerounais Amadou Ahidjo en Tunisie, pour trouver avec le président Habib Bourguiba le moyen de faciliter le dialogue entre Paris avec le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. C'est donc très naturellement qu'il se réjouit du cessez-le-feu qui intervient quelque temps plus tard en Algérie, en 1962.
C'est avec un sentiment de profonde allégresse que j'ai appris la conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Cette allégresse, est-il besoin de le dire, est unanimement ressentie par le gouvernement de la République, l'Assemblée nationale et le peuple du Niger, longtemps déchiré dans l'égale et fraternelle amitié qu'ils n'ont cessé de porter au peuple momentanément opposé, mais dont le destin historique est d'être durablement et fraternellement associé. Plus que tout autre gouvernement africain, le Niger se réjouit de la victoire du bon sens et du réalisme politique sur la passion aveugle et l'intérêt à courte vue. Je souhaite ardemment que le cessez-le-feu en Algérie soit suivi le plus tôt possible d'une large, durable et féconde coopération dans tous les domaines entre la France, le Maghreb uni et les États d'Afrique noire, et en particulier dans celui de la mise en valeur des différentes parties du Sahara pour le plus grand profit de leurs populations respectives. J'adresse aux deux parties en cause mes plus vives félicitations pour la lucidité dont elles viennent de fournir la preuve, pour leur courage et pour leur désir d'aboutir à la paix.
Si sur le plan international, Amadou Diori semble avoir véritablement fait une place au Niger dans le concert des nations, sur le plan national, les choses ne sont pas aisées. Il doit gérer un pays rongé par le désert, avec une seule ressource naturelle qui à cette époque fait l'objet de nombreuses convoitises. Une de ces richesses qui attise l'appétit des autres, notamment des grandes puissances. Un appétit qu'il faut savoir satisfaire sans se faire avaler. Surtout que les voisins du Niger ne sont pas toujours des plus pacifiques. La période qui s'ouvre devant le jeune président ne semble pas des plus paisibles, comme nous le verrons dans la seconde partie de cette série d'archives d'Afrique, dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de cette émission consacrée à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Ce mercredi
3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien, qui m'a placé à la tête de l'État, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger.
Cet ancien instituteur, directeur d'école à Niamey, qui proclame ce 3 août 1960 l'indépendance du Niger et qui a bénéficié du soutien très actif de la métropole face à son adversaire et néanmoins cousin d'Ibo Bakari, doit à partir de ce moment prendre les rênes de ce vaste territoire rongé par le désert du Sahara. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Amani Diori, qui est élu président de la République 4 mois après cette indépendance. Amani Diori, qui arrive donc à la tête de l'État du Niger en cette seconde partie de l'année 1960, semble accorder une grande importance à la question internationale. Il se déploie sur tous les fronts et s'implique dans la résolution de quelques conflits qui secouent le continent en cette période qui marque un tournant dans l'histoire de l'Afrique. Bien qu'ayant obtenu l'indépendance de son pays, Amani Diori reste très attaché à la France et aux autres nations qui, comme le sien, ont obtenu leur autonomie dans les mêmes conditions des négociations. Il accorde une attention particulière à cet ensemble. Dès 1961, il se fait l'apôtre de la francophonie et développe l'idée selon laquelle un espace structuré réunissant ces nations aurait une fonction politique stabilisatrice, en même temps qu'un impact certain sur le développement économique.
Nous avons 3 groupes d'États qui sont intéressés par ce problème de la francophonie. Les États dont le français est la langue nationale, la langue maternelle, le cas de la France ou de Haïti, les pays d'Afrique noire, notamment qui ont le français comme langue officielle, et enfin des pays dans lesquels le français voisine comme langue de travail à côté de langue officielle, notamment les pays du Maghreb, certains pays de l'Asie du Sud-Est, notamment le Cambodge et le Laos, et enfin des groupes d'États ou d'États multinationaux comme la Belgique, la Suisse, le Canada, où, dans le cadre national, le français est une langue importante à côté d'autres langues. Nous essayons donc d'organiser cette francophonie dans le fait, et un avant-projet a été rédigé, bien entendu, la France étant le premier pays intéressé. Ce que nous pouvons faire pour la défense de la langue française, pour l'expansion de la culture française, ne peut qu'avoir l'agrément du général de Gaulle et du gouvernement français.
20 mars 1970 à Niamey, avec les présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de Tunisie et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge, naît l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ACCT, une organisation intergouvernementale fondée autour du partage d'une langue commune, le français. Cette agence, qui réunit 21 États, est chargée de promouvoir et de diffuser les cultures de ses membres, d'intensifier la coopération culturelle et technique entre eux. Niamey est donc le berceau de cet organe qui réunit les pays d'expression française. L'ACCT, qui évoluera et donnera naissance plusieurs décennies plus tard à l'Organisation internationale de la francophonie. Président d'un pays pauvre, Diori Amani est de ceux qui tentent de rassembler l'Afrique francophone. Son pays va faire partie du Conseil de l'Entente, qui réunit la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, le Bénin, le Togo et le Niger. Il est également très actif au sein de l'OCAM, l'Organisation africaine et malgache. Si sur le plan international, le président Diori Amani a gagné le respect du monde pour son rôle en tant que porte-parole des affaires africaines et arbitre populaire dans les conflits impliquant d'autres nations, il doit cependant faire face à une réalité beaucoup plus prégnante, plus menaçante, qui touche directement les Nigériens. La sécheresse. Un climat désertique qui fait peser régulièrement le spectre de la famine sur son pays. C'est donc souvent qu'il doit recourir à l'aide extérieure et utiliser sa notoriété pour trouver les fonds nécessaires pour éviter la disette. L'agriculture et l'élevage souffrent de l'absence de l'eau. L'eau, sa principale préoccupation dans ce pays où le soleil brûle 11 mois sur 12.
Je me suis rendu compte qu'autant nous cherchons à avoir de l'eau dans les régions nord, autant dans le sud maintenant, on peut dire qu'il y a excès d'eau parce que le Dalol, dans le Dalol, la nappe phréatique remonte à telle enseigne que je vis des villages comme Guichemé qui ont dû quitter et pour se mettre sur la dune. Et cette abondance d'eau est importante parce que cela permet à la population de travailler en saison sèche, de s'adonner non seulement à l'agriculture et même à l'élevage. C'est ainsi que nous avons constaté que dans la région de Guichemé, chez un fermier Magori, où il y a beaucoup d'eau et de l'herbe toute l'année, les pontades pendent toute l'année, ce qui est quelque chose d'exceptionnel au Niger. La solution du problème de l'eau est une solution qui va accélérer l'élévation du niveau et la richesse dans notre pays en créant, n'est-ce pas, des activités nouvelles. J'ai mis l'accent aussi sur l'exode des jeunes. Je pense effectivement que maintenant, avec l'augmentation de la population, avec les possibilités de travail, avec la technique moderne dont nous disposons, les variétés sélectionnées, la jeunesse peut trouver à s'employer sur place au Niger et participer d'une façon plus active au développement de la production et de l'économie. Le gouvernement se fera fort de faire distribuer les charrues aux sections du parti. Et c'est à partir justement du parti que nous allons populariser la culture attelée.
Fin 1963, le torchon brûle entre le Niger et le Dahomey, chacun réclamant l'île de l'été. La tension atteint un tel niveau que le Togo de Nicolas Gruninski propose sa médiation. Voici comment Idé Oumarou, ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine, OUA, nous expliquait les raisons de ce conflit.
Le différend était d'essence purement politique, parce que vous savez que tout avait commencé avec le coup d'état de Soglo, qui a renversé le président Maga. Et il se trouvait qu'entre le président Maga et le président Diori, il y avait une vieille amitié qui remontait à leur séjour à l'école William Ponty, amitié qui s'était renforcée au sein du Conseil de l'Entente. Si bien que lorsque le président Maga a été renversé, la nouvelle équipe qui s'est installée à Cotonou, sous la direction du président Soglo, a vu d'un œil suspect l'attitude du gouvernement nigérien qui, aux yeux de Soglo, prenait fait aux causes pour Maga. D'autant plus qu'à la suite d'incidents ici au Niger et à Niamey en particulier, le gouvernement nigérien a été amené, et devant l'hostilité aussi de Cotonou, à renvoyer toute la colonie dahoméenne à l'époque. Alors cela a créé évidemment les tensions qui était plus ou moins alimenté aussi par les deux presses, la radio nationale du Niger et la radio du Dahomey à l'époque, puisqu'il fallait bien parler du Dahomey. Donc c'était des sens purement politiques. Puis il s'est trouvé qu'il y avait une île, l'île de l'été, qui depuis longtemps faisait l'objet, je dirais, de litiges entre le Dahomey et le Niger. Une petite île qui est pratiquement couverte une bonne partie de l'année par les eaux du fleuve Niger, mais habité par le peuple nigérien. Et c'était un prétexte suffisant pour amener, je dirais, les deux pays au bord de la guerre.
Ce différend ne va pas s'arrêter au seul Dahomey. Les relations avec Sékou Touré de Guinée et Kwame Nkrumah du Ghana, qui le perçoivent un peu comme l'homme des Français dans la région, vont aussitôt fortement se détériorer. Le président Amani Diori doit également faire face à l'activisme de son cousin Djibo Bakary, qui n'a pas capitulé. En novembre 1964, règne une ambiance électrique dans la capitale Niamey. On parle d'une tentative de putsch manquée. Une action qui aurait été orchestrée justement par Djibo Bakary contre le chef de l'État.
Nous aurons vécu ce paradoxe scandaleux que l'année 1964, année de haute réalisation et de vaste espoir, risque de prendre tristement place dans nos annales politiques, comme celle où une poignée d'égarés aura conçu le projet criminel de poignarder dans le dos tout un peuple vaillamment engagé dans sa lutte pacifique contre la misère et le sous-développement.
Cette tentative de putsch ouvre une ère un peu moins dominée par la diplomatie au Niger. Duryamani change de ton et menace ceux qui soutiennent les forces qui fragilisent son régime. Il accuse ses voisins, le Ghana et le Bénin, de servir de base arrière, d'accueillir sur leur sol les activistes de son principal adversaire, Djibo Bakary.
Nous sommes plus que jamais décidés à combattre contre l'immixtion dans les affaires intérieures du pays à partir de bases africaines. Ceci est solennellement condamné par la charte de l'OUA. Nous serons toujours présents à tous les rendez-vous pour trouver une solution à ces problèmes, que ce soit dans le cadre africain ou même dans un cadre plus vaste international. Dès le début, ainsi que ça a été dit par nos représentants un peu partout, nous avons voulu contacter les États frères. C'est ainsi que nous avons successivement informé et l'Algérie, et le Mali, et la Haute-Volta, et le Dahomey, et le Nigeria sur ce problème. Et nous avons touché aussi le Ghana. Seuls le Dahomey et le Ghana ont fait les gens étonnés. Et ce que nous voulons souligner, c'est que les Djibo Bakary et tous les gens de la subversion n'utilisent pas les moyens normaux de communication. Ce ne sont pas des agneaux qui passeraient par le car ou bien par les camions normaux de transport. C'est des gens qui s'accoutrent en marabouts, en commerçants, en travailleurs et par tous les déguisements possibles arrivent à franchir les frontières. Qui aurait pensé que les armes et les munitions entreraient au Niger à travers des pneus de secours, dans des sacs de farine, dans des sacs de gari, dans des sacs de sucre, dans les paniers de cola? Voilà les méthodes employées par les gens subversifs. Et il faut savoir aussi qu'ils ne se déplacent que la nuit. Donc il est possible que ces gens-là puissent emprunter n'importe quel territoire voisin du Niger pour essayer d'organiser la subversion.
Devant cette subversion, devant cette menace et les autres plus économiques qui secouent son pays, le président Duryamani peut dans le même temps compter sur le soutien de son ami, le général de Gaulle, à qui il rend régulièrement visite.
J'ai eu un entretien avec le président de la République française sur des problèmes intéressant la coopération entre nos deux pays. Et je lui ai fait part de l'inquiétude des agriculteurs du Niger depuis que, en raison de la politique agricole commune, la France ne peut plus, en raison de ses engagements dans l'Europe, soutenir notre production essentielle d'exportation qui est l'arachide. Il se trouve que malheureusement cette année, les cours mondiaux sont très bas, ce qui se traduit par une diminution du pouvoir d'achat des producteurs du Niger et avec des répercussions sur les finances publiques, les rentrées et au-delà.
L'homme en qui l'on voit l'ami très considéré du général de Gaulle, comme l'appellent certains, sait aussi quelquefois se faire entendre de Paris. En 1972, il demande la réadaptation de la coopération dans un sens laissant plus de liberté économique et financière aux interlocuteurs du président Pompidou. Mais la grande discorde avec la France va venir de l'exploitation de l'important gisement d'uranium du Niger. En 1973, au moment où l'Europe affronte la crise pétrolière, il refuse de se contenter encore d'une rente modeste en échange des fournitures pour le commissariat à l'énergie atomique. Ce qui provoque le courroux de la métropole qui prend aussitôt ses distances. Une position nouvelle qui va le fragiliser. 1973. Le Niger, situé à la porte du désert du Sahara, est dévasté par une terrible sécheresse qui naturellement entraîne une famine tout aussi dure. Une situation qui, bien sûr, a pour effet de rendre de plus en plus impopulaire le régime du président Duryamani. L'on accuse certains responsables politiques et barons du régime de profiter de cette sécheresse pour s'enrichir. Au sein de l'armée aussi, la colère gronde. L'idée d'un coup de force germe alors dans l'esprit d'un officier, Idrissa Harouna. Il va convaincre son ami et chef d'état-major de l'armée, Séni Kountché, de participer à ce projet. Celui-ci, après hésitation, accepte d'y réfléchir. Il partage le même point de vue sur l'incapacité du régime à voler au secours du peuple. Pour avoir les esprits de leur côté, élément important dans leur environnement où rien ne se fait sans la participation des marabouts, Ils associent un troisième larron qui, lui, n'appartient pas à l'armée. Cheikh Oumarou, dit Bonkano, bouillant personnage qui séduit les deux autres par son mysticisme. Idrissa Harouna.
Vous savez, en Afrique, on ne peut rien engager sans consulter soit un marabout, soit un féticheur, soit un esprit. Parce que c'est dans les mœurs des Africains. Il se trouverait que Bonkano, à cette époque-là, avait quand même un certain secret. Et pas un secret vraiment négligeable. Donc, personnellement, j'avais une confiance aveugle envers Bonkano. En décembre 1969, nous nous étions rendus, Senkunche et moi, dans le village de Bonkano. Et nous avions évoqué un changement de régime. Et nous souhaiterions que l'esprit que Bonkano détient puisse nous aider dans notre œuvre. Et à cette époque-là, c'était en décembre 1969, nous avions demandé une somme de 100 000 francs. Aucun d'entre nous ne disposait de cette somme-là. Senkunche, en tant qu'adjoint au chef d'état-major, a vu l'intendant auprès duquel il a pris un bon et nous avons remis la somme pour notre œuvre que nous comptons entreprendre.
En tout cas, très discrètement, les trois amis entrent dans une phase de préparation active de leur putsch. Rencontre après rencontre, leur plan prend forme. Il faut fixer une date pour passer à l'action. Cette fois encore, les officiers s'en remettent à celui qui, dans le groupe, fait office de marabout, Bonkano. Sans le dire à ses compères, il choisit pour l'opération la date de son anniversaire et justifie le choix par la volonté des esprits. Coup du destin ou du sort qui va conforter Bonkano et le crédibiliser un peu plus auprès de ses amis. En France, à cette période même, le président Georges Pompidou décède après une longue maladie.
Office de radiodiffusion télévision française, ensemble du réseau, il est 6h. Des informations, Patrick Lecoq.
Bonjour. La France vit depuis hier soir à nouveau des heures graves. Le président de la République, M. Georges Pompidou, est mort.
Cette disparition, cette mort du président Pompidou, qui préoccupe l'ensemble des Français, est une occasion que comptent exploiter les trois amis pour renverser le régime de Diori Amani, qui jusque-là ne se doute de rien. Pour eux, le projet étant désormais prêt, il est venu le moment de passer à l'action. Les officiers qui ont rejoint le petit groupe ont reçu chacun leur mission. Les points névralgiques et les institutions sensibles, de même que les casernes, doivent être neutralisés. Ali Chebou, qui deviendra des décennies plus tard président de la République, fait partie de ces officiers.
Mon objectif était de m'emparer de la radio et d'aller tenir Tandoubia, qui est le centre d'instruction.
Ce putsch si savamment préparé va-t-il sonner la fin du régime de Diori Amani ? Ces militaires vont-ils parvenir à renverser le régime de celui qui jusque-là était considéré comme l'un des principaux amis de la France dans le précaré? Paris laissera-t-il faire? Nous le saurons la semaine prochaine dans la troisième partie de cette série que nous consacrons au président Diori Amani. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Diori Amani. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.